France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Allôm à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques, Clément Vuillet à la console. Il y a longtemps de cela, le sage qu'était Voltaire écrivait Candide, un conte teinté d'un certain pessimisme, fruit de l'expérience douce amère de toute une vie. La dernière phrase de Candide est célèbre, « Il faut cultiver notre jardin ». Eh bien, c'est ce à quoi nous allons nous employer en compagnie de Gaspard Koenig, auteur d'un essai intitulé « Agrophilosophie » ou « Comment réconcilier nature et liberté ». Le livre est paru aux éditions de l'Observatoire. Seconde invitée, Monique Mosser, qui, elle, nous entraîne dans bien des jardins avec son complice Gilles Clément et ça donne « Inventer le jardin de l'Antiquité à nos jours ». C'est donc le titre de ce beau livre publié au Seuil.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
La croisée est ouverte. Il pleut comme minutieusement, à petit bruit et peu à peu, sur le jardin frais et dormant. Feuille à feuille, la pluie éveille l'arbre poudreux qu'elle verdit. Au mur, on dirait que la treille s'étire d'un geste engourdi. L'arbre frémit, le gravier tiède crépite, et l'on croirait là-bas entendre sur le sable et l'herbe comme d'imperceptibles pas. Le jardin chuchote et tressaille, furtif et confidentiel. L'averse semble maille à maille tisser la terre avec le ciel. Il pleut. Et les yeux clos, j'écoute, de toute sa pluie à la fois, le jardin mouillé qui s'égoutte dans l'ombre que j'ai faite en moi.
Le jardin mouillé, poème d'Henri de Régnier, on fleurait de naissance et savoyait, c'est important. Gaspard Koenig, tel Dioclétien, vous vivez la plupart du temps en Normandie, vous êtes retiré, et très vite dans cet essai Agrophilosophie, qui se lit d'ailleurs comme un roman, vous évoquez le Candide de Voltaire, qui donc dit qu'il faut cultiver son jardin. C'est quoi? C'est une incitation au travail, en fait?
Alors, pas vraiment, c'est presque un réflexe de survie, parce qu'il faut se rappeler qu'à la fin du Candide, quand Voltaire s'installe à la campagne parce qu'il a assez d'argent, donc il a une petite rente. C'est une sorte
un peu
de,
comme vous.
C'est une sorte de néo-rural qui veut redécouvrir les charmes de la nature avec toute sa petite équipe. Et puis, quand ils arrivent là-bas, ils disent oh, « mais que c'est joli !» Et puis, ils s'ennuient très vite. Et là, ils commencent à s'étriper. Les amis se fâchent, il se bat avec sa femme, il y en a qui partent, il y en a qui meurent. Il dit « en fait, ça marche pas du tout, parce qu'on arrive à la campagne, et après avoir entendu une ou deux impressions poétiques, comme celles qu'on vient d'entendre, très vite, on tourne en rond. Et en fait, ce qui le sauve, c'est de voir, d'aller visiter un fermier voisin, qui lui explique comment il fait pousser des plantes, comment il les vend ensuite au marché. Et puis ils reviennent, ils disent « mais quelle bonne idée, c'est pour ça qu'il faut travailler en fait ». Et donc, il faut cultiver son jardin. C'est pour ne pas mourir d'ennui, quelque part. Et c'est pour faire quelque chose et avoir la satisfaction de cette interaction entre l'homme et la nature. Et effectivement, tout de suite, ça devient une, à la fois un labeur et une jouissance. C'est ça que, je pense, veut dire Voltaire. Et il faut comprendre que dans ce texte, effectivement, il ne travaille pas de manière productive pour gagner sa vie.
Et ça, c'est important. Voilà. La bêche brise l'ego, écrivez-vous.
Bah, c'est-à-dire que il est vrai, bah, d'ailleurs exactement comme dans le texte de Voltaire, que comme vous le rappeliez avec Dioclétien qui refuse de repartir aux affaires à Rome, c'est Montaigne qui le cite dans ses essais, parce que il dit si vous voyez mes potirons et si vous voyez mes arbres fruitiers, eh bien vous comprendriez que j'ai encore du travail ici et que j'ai aucune envie de reprendre les affaires de l'Empire. Et c'est vrai que on finit par être tellement absorbé par cette matière qu'on perd un peu toute ambition à la fois sociale, ça c'est très bien, mais aussi au fond toute ambition intellectuelle, et qu'il est, en tout cas pour moi, assez sain et équilibré de revenir de temps en temps dans l'agitation, l'excitation de la ville
pour écrire
ou pour retrouver une espèce d'ambition, voilà, qui sinon en fait s'efface dans l'ataraxie quelque part de ces journées-là.
Mais dans ce livre, Agrophilosophie, vous souhaitez, si j'ai bien compris, expliquer la pensée par le sol, par l'humus. On se souvient d'ailleurs d'un roman que vous aviez écrit intitulé Humus, et qu'il y a, je crois, deux ans, trois ans, vous a valu le prix Interallié.
Oui, en fait, je me suis dit, mais d'abord, l'humus en soi est un objet philosophique absolument fascinant, qui, je crois, n'a pas été traité par les philosophes jusqu'à Élisée Reclus, parce que c'est dans la terre que la mort se transforme en vie. Et au fond, ce principe de la destruction et du recyclage permanent, c'est le principe de l'évolution naturelle elle-même, c'est ce qui permet le progrès. C'est en même temps ce qui fait peur, parce que ça rappelle notre propre finitude. C'est pas pour rien que humain vient de humus. Et au fond, l'humanité a toujours regardé le ciel, elle a découvert la terre, le sol, scientifiquement seulement à la fin du 19e siècle, avec la naissance de la pédologie, avec le dernier livre de Darwin sur les vers de terre. Et donc je me suis dit, mais il faudrait repartir de là, et puis il faudrait aussi retrouver chez les philosophes leur rapport à la terre, un peu comme avait fait Michel Onfray par rapport à la nourriture. Et ce que ça dit de leur propre pensée, et puis ensuite ce que ça peut dire de notre propre société. Et j'ai d'abord trouvé qu'il n'y en avait pas tellement.
Pas tant que ça, oui.
Il faut vraiment aller chercher des bouts de métaphores, des petits paragraphes. Alors il y a des considérations sur la nature en tant qu'abstraction, ça beaucoup. Mais au fond, il n'y a pas de rapport très charnel à la Terre aussi, parce que je pense que les philosophes ont quand même beaucoup été des urbains. En tout cas, les Grecs avaient encore des jardins philosophiques, Aristote et les péripatéticiens, le jardin d'Épicure, Platon aussi. Mais après les Grecs, au fond, les philosophes s'urbanisent. Mais quand on retrouve leur rapport à la Terre, je trouve que c'est assez parlant. Pour prendre des exemples assez évidents, Hegel, qui est le philosophe de l'ordre, le philosophe de l'État, le philosophe de la domination et du pouvoir, il aime les jardins à la française, il aime, comme il l'écrit, les haies bien taillées. Proudhon, qui est le penseur de l'anarchie, de l'ordre spontané, eh bien, il dit à un moment donné, dans sa théorie de la propriété, ne vous échinez pas toujours à cultiver la terre, laissez pousser les chardons et les ronces. D'ailleurs, on retrouve les ronces dans le livre de Gilles Clément et de Monique Mosser, et l'intérêt en fait des ronces pour les écosystèmes, puisqu'elles permettent de construire cette friche armée dans laquelle les jeunes arbres pionniers vont pouvoir naître. Elles donnent des fruits d'ailleurs, et elles protègent autant qu'elles excluent. Voilà, et donc c'est très proudhonien, puisqu'en plus la ronce, c'est un objet qui en lui-même un phénomène d'ordre spontané, puisqu'elle se marcotte, c'est-à-dire que la tige va dans la terre et puis se fait racine et repart. Et c'est pas étonnant, voilà, si Proudhon a de l'affection pour la ronce. Donc c'est amusant, et je me dis, ça c'est les philosophes, mais au fond on est tous comme ça, et peut-être que nos visions du monde, nos manières d'être, se reflète notre rapport, ou à l'inverse, notre non-rapport total à l'humus.
Alors, on retrouve effectivement la ronce, on retrouve aussi l'humus, Monique Mosser, dans votre livre, puisque vous citez un long passage du livre de Michel Tournier, Le vent paraclet. Tournier qui écrit « Pour être un homme jardin, il faut connaître l'intime de l'humus et savoir la course des nuages ». Tournier écrit aussi que le jardin a aussi et surtout été une vocation matérielle existentielle. C'est votre cas aussi ?
Je pense que oui. En fait, ça fait 55 ans que je m'occupe des jardins. Je suis arrivée à un moment où... Enfin, je suis historienne de l'art. Et donc, j'ai suivi un enseignement pré-68 art à la Sorbonne. J'ai eu des grands professeurs. Mais je n'ai jamais entendu parler de jardins pendant les 4 ans de ma licence. Et un beau jour, travaillant sur l'architecture, étant historienne d'architecture, j'ai découvert les jardins du XVIIIe siècle, les jardins dits à l'anglaise, anglo-chinois, pittoresques, etc. Et je me suis dit, mais c'est très intéressant, je suis allée faire quelques investigations et je me suis aperçue qu'il n'y avait à peu près rien là-dessus parce que les historiens de l'art n'avaient jamais considéré de très très près ou tout à fait ponctuellement l'histoire des jardins. Et donc, c'est vrai que, sans me vanter, j'étais un petit peu au début de l'invention de l'histoire des jardins. Voilà. Alors, c'est pour ça que je me suis un petit peu étonnée de temps en temps.
Vous ne fâchez pas tout de suite. Parce que c'est vrai que Gaspard Koenig, on va aussi parler de vous.
Non, mais c'est parce que on a des points de rencontre quand même.
Heureusement.
Quand il écrit, d'où ma dernière question au philosophe, mais pourquoi diable tous ces jardins? Alors je me dis, mais pourquoi fait-il appel au diable en plus? Mais en l'occurrence.
C'est une expression peut-être.
Non, mais on a une rencontre formidable qui est Georges Sand. Alors, parce qu'il triche un peu, il récupère Georges Sand, qui n'est pas une philosophe.
Non, mais il dit qu'elle pourrait presque l'être.
Je trouve que justement, elle est déconsidérée du point de vue intellectuel, alors qu'elle écrit des textes très forts.
Elle fait partie de ma vie, parce qu'il se trouve qu'avec une de mes amies paysagistes, Isabelle Horicoste, on a travaillé pendant plus d'un an sur Nohant, pour réhabiliter Nohant. Et on nous avait posé une question totalement idiote, enfin, les responsables à l'époque, qui étaient le Centre des Monuments Nationaux. Voilà, c'est en mauvais état. Et comment faire un jardin romantique? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un jardin romantique. Et
avec des bancs sur lesquels on peut s'asseoir, compter fleurettes.
C'était une totale incompréhension de qui était Georges Sand, parce que Georges Sand a la vérité de sa grand-mère, un immense verger, un jardin potager, et puis un petit bois, et puis des terres agricoles, parce qu'elle dirigeait un grand domaine agricole, et elle faisait vivre là-dessus 22 personnes, elle faisait la cuisine d'ailleurs, et elle cultivait tout ça, et le jardin romantique, il n'y en avait strictement pas. Il y avait son vieux copain Mérimée qui lui avait filé 3 vieilles tombes mérovingiennes qui traînaient par là, qu'il avait mis dans son bois, mais c'est à peu près la seule chose un peu romantique. Bon, et ce qu'on a expliqué justement avec mon ami paysagiste, c'était qu'il fallait respecter l'originalité du bout de jardin 18e de la grand-mère, du petit bois, et puis surtout de la production. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'elle avait aussi une roseraie, mais comme le dit très bien Gaspard, en fait, elle, c'était une formidable botaniste. Elle a appris la botanique dès qu'elle était toute petite, et elle ramenait des mottes de terre de toute la campagne aux environs, la vallée noire, et elle implantait tout ça dans son jardin. Donc elle avait une attitude extrêmement proche d'une vision naturelle. Et ce qui est très très amusant, c'est qu'elle raconte à un moment, et ça, je fais faire enrager Gaspard, parce qu'il a... Il n'a pas l'air de beaucoup aimer Jean-Jacques, mais elle avait, ramené des charmettes dans son mouchoir, des fleurs pour les replanter dans son jardin. Et donc, quand on se promène du côté de Nohant, on a le souvenir de Jean-Jacques rapporté dans son mouchoir par Georges. Donc, il y a cette espèce de vitalité. C'est une formidable jardinière. Alors, j'ai quand même recopié, je vous lis juste trois. C'est une lettre à Delacroix en 1843. Sème, je plante, je fume mes plates-bandes, je fais des massifs, j'enfonce des pieux, je relève des murs, je fais venir de la terre légère d'une demi-lieue, je suis en sabot toute la journée et ne rentre que pour dîner. Je ne plante pas un brin d'herbe sans penser à vous, sans me rappeler comme vous aimez et comme vous appréciez les fleurs, et comme vous les comprenez et comme vous les peignez.
Mais alors, si vous faites la même chose, Gaspard Koenig, à la campagne, dans votre jardin, on peut appeler ça un domaine ou pas encore, non? C'est quand même assez étendu.
C'est un hectare, mais qui est occupé aux trois quarts par ce qu'on appelle un verger pâturé, donc c'est des arbres, et puis il y a des vaches qui pèsent sous les arbres, donc ça, c'est relativement facile d'entretien. Et justement, je me garde bien d'en faire un jardin d'agrément, parce que je vois très bien le travail colossal que ça peut être. Et donc, au contraire, j'essaye d'avoir une action minimale, ce que je trouve aussi intéressant d'un point de vue philosophique. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on peut, et c'est ce que faisait constamment Georges Sand, à laquelle moi j'ai pris le thème de l'anémone, parce qu'elle parle des fleurs sauvages, on peut constamment expérimenter. À partir du moment où on ne met pas de produits dans la terre, on ne peut pas nuire. Et même si on se plante complètement, l'année d'après, les compteurs sont remis à zéro et vous pouvez recommencer. Et donc, j'expérimente par petites touches. Et puis, je vois ce qui se passe, ou ce qui se passe pas, ou ce qui se passe mal. Mais ça donne une grande liberté quand même, cette innocuité en fait de l'action.
Et le jardin a à voir avec le bonheur d'exister, le bonheur de vivre?
Ben, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a mille manières d'être heureux et qu'on peut être aussi désespéré dans un jardin. D'ailleurs, c'est le cas de ce pauvre Rousseau qui passe son temps à pleurnicher. Et en fait, il aime les jardins pour ça, parce qu'il se sent loin des hommes et qu'il peut les haïr tout son sou. Donc, j'ai pas l'impression que ça lui fasse beaucoup de bien à Rousseau, les jardins. Au contraire, ça aiguise sa misanthropie quelque part. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je trouve que ça donne surtout un rapport à la liberté, au fond.
D'où réconcilier nature et liberté, qui est le sous-titre de votre essai.
Oui, parce qu'on retrouve forcément quand on est attentif au vivant autour de soi, on retrouve aussi du vivant en soi. Et dans cet échange-là, on retrouve aussi une forme presque d'autonomie par rapport aux grandes questions politiques, par rapport au tracas du monde, quoi. Et ça donne beaucoup de force, ce que Montaigne appelle l'arrière-boutique, cette cabane, si vous voulez, où on peut entretenir un dialogue, une conversation, même tout seul, mais avec les plantes ou avec les arbres. Voilà.
Natacha Atlas, mon amie La Rose.
Bien un peu de choses, et mon amie La Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle. Et mon amie La Rose me l'a dit ce matin. Voilà le Dieu qui m'a fait courber la tête. Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais cueillir et je serais pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie La Rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. On est bien peu de choses, et mon amie La Rose me l'a dit ce matin. Voilà Dieu qui m'a fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu.
Elle l'a dit.
Monique Mosser, d'ailleurs, vous évoquez à un moment donné Claude Monet, son jardin de Giverny, devenu célèbre puisqu'il se visite. Donc Sacha Guitry disait que c'était un des plus beaux jardins du monde. Et le seul luxe finalement de Monet, c'était ses fleurs.
Bah c'est ce qui est formidable dans ce film. D'ailleurs, on peut le voir sur... Il faut absolument que tout le monde aille le voir. C'est donc un film qui était muet au départ, puisqu'il est tourné tout de suite enfin, au moment de la guerre de 14. Et puis après, Sacha Guitry a entièrement repris le film et a parlé. Alors, c'est ce discours qui est extraordinaire. Mais ce qui est formidable, ce sont les deux minutes où on voit quand même Monet peindre en direct alors qu'il est très âgé, qui va mourir peu de temps après, donc en vrai. Et là, tout d'un coup, on a cette vérité, et qui est pour moi tellement importante par rapport au grand gourbi récupéré par l'Académie des Beaux-Arts et tout le monde pour en faire une espèce de cirque absolu. Alors, je sais bien que c'est formidable, on a tous les Japonais de la planète qui viennent là, mais il y a une espèce de distorsion entre la modestie et le génie absolu de ce moment incroyable, enfin de cette folie de ce peintre qui a passé 20 ans de sa vie à peindre des maîtres et des maîtres, l'idéaire de nénuphar, d'aphéa. Et puis cette arrivée touristique qui tue toute cette dimension poétique et toute cette force de création. Et là, tout d'un coup, on a envie d'un petit peu enfoncer le clou pour rendre la vérité au lieu.
Gaspard Koenig, est-ce que vous trouvez qu'on sépare de façon peut-être trop hermétique, puisque réconcilier nature et liberté, je rappelle que c'est le sous-titre de votre essai agrophilosophique, on sépare de façon trop hermétique nature et culture. Quand un Philippe Descola dit que la nature, ça n'existe pas, qu'est-ce que vous avez envie de dire ?
Je suis complètement sur cette ligne. C'est pour ça que je me méfie beaucoup d'ailleurs des pensées du réensauvagement ou des droits de la nature, qui voudraient retirer l'homme de la nature pour la laisser à elle-même. D'abord, un biologiste comme Marc-André Selosse explique très bien que la nature laissée à elle-même, elle peut faire n'importe quoi, il y a des espèces ravageuses. La nature laissée à elle-même ne va pas forcément aller dans le sens de la biodiversité, de l'équilibre, de tout ce qu'on voudrait. Donc l'homme peut avoir une action extrêmement positive dans la nature.
Il a même des responsabilités, responsabilité oui. Vis-à-vis d'un certain équilibre, enfin, des communautés écosystémiques. Hein.
Mais en fait, c'est la seule espèce qui est capable d'avoir cette responsabilité. Mmh. Parce que il est faux de dire que l'homme est la seule espèce qui surexploite ses ressources. Toutes les espèces ont tendance à surexploiter les ressources. Elles n'ont pas de conscience comme ça collective de leur environnement, ni de sagesse collective, ni rien du tout. Et le philosophe dont je m'inspire beaucoup à la fin et qui donne, je trouve, une bonne ligne pour penser cette question écologique, c'est Élisée Reclus, géographe, anarchiste de la fin du 19e, mais qui est aussi un homme de progrès qui assume ce terme-là, qui assume l'action de l'homme dans la nature, qui constate les dégâts de la pollution de son époque, mais qui dit, qui écrit ce que l'homme a défait, il peut le refaire. Et puis, il explique, il a cette très belle phrase, que l'humanité, c'est la nature devenant consciente d'elle-même. Et donc, nous avons cette conscience des écosystèmes, et maintenant, nous avons cette science des écosystèmes. Nous savons, ou nous approchons en tout cas, de savoir comment ça marche et ce qu'on peut faire pour réintroduire telle espèce, pour permettre à telle autre de ne pas proliférer. Et donc, c'est cette conscience-là, au fond, qui effectivement nous donne une responsabilité et qui nous permet d'interagir de manière positive avec cette nature.
Donc mieux vaut donner en fait des devoirs à l'homme que des droits à la nature.
Voilà.
Vous n'êtes pas par exemple favorable, je prends cet exemple-là, au droit du fleuve.
Je suis pas du tout favorable au droit du fleuve. Je pense que d'ailleurs il y a des textes de Descola où il est très prudent avec cette notion et très critique et où il explique que c'est assez anthropomorphique puisqu'au fond les droits individuels on les a donnés d'ailleurs souvent contre la nature. Il faut rappeler quand même que le droit de propriété, notamment quand Locke John Locke le pose à l'ère moderne, justement, il prend l'exemple du pommier, il dit « je cueille la pomme, je m'approprie la pomme ». Donc quelque part, les droits fondamentaux, les droits de l'homme, etc., c'est presque des droits de préemption qui, à l'origine, sont des droits contre la nature, sont des droits de destruction aussi, sont des droits d'abusus. On va pas donner à la nature des droits qui sont à l'origine conçus contre elle, je trouve ça un peu paradoxal. Et par ailleurs, je trouve que c'est très fixiste, c'est-à-dire si on donne un droit à un fleuve, Mais quel fleuve ? Un fleuve, ça se méandre, ça vit, ça bouge. Si on donne des droits à la Seine, par exemple, aujourd'hui, puisque c'est la mode, si on reprend la Seine du 5e siècle avant Jésus-Christ, on va réintroduire les méandres qu'il y avait à l'époque et on va submerger Paris. À l'inverse, on peut agir dans un fleuve, ce que fait Baptiste Morisot en faisant des barrages de castors, pour, grâce à l'action humaine, lui redonner un équilibre qu'il avait perdu. Donc, c'est pour ça que je préfère la notion de droit des fleuves, qui est une notion, en plus, je trouve un peu autosatisfaite. Quand c'est poétique, c'est sympa, et donc on a l'impression que c'est bien. Je préfère l'idée d'adjoindre aux droits qu'on a donnés légitimement aux êtres humains, notamment le droit de propriété, des devoirs, et l'idée que, par exemple, quand on est propriétaire d'un terrain, d'abord, on peut plus dire aujourd'hui que on a le droit de tout faire sur son terrain. C'est pas possible. On a des milliards d'êtres vivants sur un terrain. Dans l'humus, il y a plus de biomasse qu'au-dessus de la terre, beaucoup plus. Rien que les lombrics pèsent plus lourd que toutes les espèces terrestres réunies. On ne connaît que 1% des espèces vivantes dans l'humus. Donc là-dedans, il y a une masse de choses colossales. Donc l'homme ne peut pas s'arroger le droit de bousiller tout ça. En revanche, il a le droit d'y agir, et donc on pourrait imaginer, par exemple, qu'il ait le devoir de, au moins, maintenir ou augmenter le niveau de biodiversité sur un terrain donné, par tous les moyens qu'il juge bons à y employer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut combiner justement la science, la recherche fondamentale, qui avance beaucoup, c'est sur ces sujets-là, et qui nous explique notamment sur la question agricole comment on peut produire tout en se fondant sur ce qu'on appelle les solutions fondées par la nature. Donc on peut tirer profit en tant qu'être humain de la nature grâce à la nature elle-même et en résolvant les problèmes qu'elle nous pose par les moyens qu'elle nous offre. Je prends un exemple personnel. Est-ce qu'il faut tondre, par exemple, sa pelouse ?
J'allais vous poser la question, bon, et je connais la réponse.
Mais oui, mais justement, je vous disais au début, en fait, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux ne pas faire ? Oui. Et on a le réflexe de tondre parce que, comme vous dites d'ailleurs dans votre livre, Monique, ça fait propre. L'expression de Gilles Clément, ça fait propre, ça fait propre, c'est orthogonal. C'est comme les champs qui sont tout jaunes parce qu'il n'y a pas d'espèces adventices, ça fait propre. C'est une espèce d'esthétique de la modernité, une esthétique de la ligne droite qu'on retrouve peut-être d'ailleurs dans l'art abstrait.
Ça vient des États-Unis. On avait fait une grande exposition avec un de mes amis au Canada, au Centre canadien d'architecture, sur le lawn, donc la folie américaine du gazon.
Oui, oui.
Et on a été envahi par cette vision américaine, en fait, qui n'est pas la nôtre.
Et donc, il faut changer notre regard et se dire, finalement, si je laisse pousser mes herbes folles, est-ce que c'est moins propre ? Non, c'est simplement, d'abord, c'est plus beau. Enfin, en tout cas, c'est une question d'esthétique, quasiment. J'ai un agriculteur qui travaille en bio près de chez moi et il dit, mais les autres considèrent que mes champs sont pas propre. Et donc, il faut comprendre que quand on est agriculteur, on est sous une espèce de pression sociale continuelle, parce que votre travail, il est immédiatement au vu et au su de chacun. Moi, quand j'écris sur mon ordinateur, je suis tout seul, je peux faire ce que je veux. Alors que l'agriculteur, immédiatement, il est jugé, tout le monde se regarde. Donc, il faut assumer, en fait. C'est compliqué d'assumer
notre esthétique.
Et votre
voisin, en fait, il pratique l'agrophilosophie.
Mais il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'agrophilosophie. Je pense que dès qu'on pense à la question du sol et de la fertilité du sol et qu'on comprend que c'est un sol vivant qui fait pousser, je pense qu'on est déjà dans cette voie. Après, je peux pas te donner de leçons parce que c'est pas moi mon travail. J'en tire pas mon revenu. Donc je suis très prudent avec ça. Mais je vois quand même de quelle philosophie on peut s'inspirer. Et notamment sur le sujet de l'agrophilosophie de Thoreau et de la manière dont Thoreau, philosophe américain du milieu du 19e siècle, décide de faire pousser ses haricots. Alors lui, il veut les vendre. Hein. D'ailleurs, il n'est pas dans une logique d'autosubsistance. Il est dans le marché. Il veut simplement en tirer juste assez d'argent pour pouvoir subvenir à ses très modestes besoins. Mais il fait quand même pousser son champ sur un demi-hectare. Et il décide de ne pas mettre d'équivalent à l'époque des engrais ou des pesticides. Et puis la deuxième année, il décide de même pas faire de labour. Donc là, il est à pointe de la pointe de la science contemporaine qui veut faire du semi-direct. Il explique que ainsi, il fait une culture, il appelle demi-sauvage. J'aime beaucoup l'expression, c'est-à-dire qu'on est entre ne rien faire, entre laisser faire et la culture. On en revient à nature et culture, demi-sauvage, c'est cet aller-retour. dont il tire aussi des leçons politiques, parce qu'au fond, son appel à la désobéissance civile, c'est ça, c'est du demi-sauvage. C'est, on arrive à trouver un point de vue extérieur à la société pour la juger.
Mais il est allé loin, c'est lui qui a fait de la prison.
Alors il a fait, il a fait une nuit de prison parce que sa tante est venue payer la caution le lendemain. Mais quand il part de sa prison, la première chose qu'il fait quand il est libéré, il monte dans les collines et il va cueillir des mûres sauvages. Voilà, il a besoin d'un peu de sauvage. Et puis après, il retourne dans sa société, il retourne combattre, il retourne dénoncer l'esclavagisme.
Le philosophe Jacques Rancière, c'était à la grande table sur France Culture en 2020.
Le paysage, à l'origine, le paysage, ça veut dire simplement l'étendue finalement de terre qu'on perçoit comme ça dans un seul regard. Donc ça n'a finalement rien qui a à voir normalement avec l'art, avec le beau. Et puis effectivement, il se passe au XVIIIe siècle que petit à petit, le paysage va devenir autre chose, va devenir quelque chose comme un spectacle un petit peu exemplaire qui est produit par une artiste également exemplaire qui est la nature. Mais il y a un moment spécifique où tout d'un coup, vraiment le paysage, c'est pas simplement quelque chose qu'on représente, mais c'est quelque chose qui devient un objet de pensée et qui va contribuer à redéfinir ce que c'est que l'art. Justement, ce qui va être en question tout au long du XVIIIe siècle, c'est une certaine idée justement de l'art d'agencé. Au fond, c'est un modèle architectural. Bon, qu'est-ce que fait le nôtre ? Qu'est-ce que fait cette tradition-là ? C'est concevoir le jardin comme de l'architecture. Et l'architecture qui, au fond, on peut dire, est un prolongement de l'architecture du palais. Ce qui veut dire que le jardin est quelque chose qui, justement, marque une certaine maîtrise. Maîtrise qui est donc exercée sur l'espace. Où, les arbres, par exemple, ou l'eau, doivent être utilisés comme font des moyens pour cet art qui est l'affirmation d'une volonté.
Monique Masser, l'architecture du jardin, le fait de concevoir un jardin à la façon d'un architecte, c'est le cas de nombreux jardins et surtout du jardin à la française qui plaît tant à Gaspard Koenig. Est-ce que c'est à vous, est-ce que c'est pour vous, c'est un style en fait qui vous plaît, qui vous convient?
Non, alors là je mets tout à plat. Vous venez suivre les cours le master que j'ai créé il y a 30 ans et où on refait l'histoire des jardins parce que je pense qu'il faut se débarrasser définitivement de ces appellations extrêmement simplistes qui ne rendent absolument pas compte de la complexité de tout ça. Et puis là, on repart de quelque chose d'un peu concret. Voilà. Mmh. Alors, c'est clair que depuis la Renaissance, à travers tout un long temps, il y a des modèles qui se sont imposés pour des raisons esthétiques, pour des raisons théoriques, pour des systèmes de représentation du monde qu'on peut accepter ou ne pas accepter. Mais à la française, d'abord, c'est déjà une invention, un mot, une manière de dire de l'extrême fin du 19e siècle, parce qu'au 17e siècle, on disait jardin français. Et à la française, ça veut dire à la manière d'eux. Et on est déjà dans un moment de réaction nationaliste, de la montée du nationaliste, où le nôtre va devenir une espèce de parangon de la francicité. Et comme je l'ai expliqué, donc on est déjà dans quelque chose de politique. Après la guerre de 70, donc il y a la montée des nationalismes à travers toute l'Europe. Et donc la réinvention du jardin dit à la française et toute la restauration de ces jardins du 17e qui avaient souvent été transformés au 18e pour devenir des jardins pittoresques. Donc on est dans c'est une histoire extrêmement mouvante le jardin. On n'arrête pas le temps du jardin puisqu'on est dans le vivant. Et c'est l'extrême ambiguïté de cette histoire qu'on croit pouvoir arrêter à travers les images. Hein, bon, mais malgré tout, les arbres poussent, ils meurent, on les remplace. C'est plus tout à fait la même chose. Qu'est-ce que fait Louis XVI quand il monte sur le trône? Il fait abattre le parc de Versailles qui est en très mauvais état et il le replante régulier comme son grand ancêtre Louis XIV. Mais le même jour, il donne le Trianon de Louis XV, qui était un magnifique jardin botanique, à Marie-Antoinette, qui fait le petit Trianon. Donc on est dans une espèce d'ambiguïté extrême, de changement de style, de toute possibilité de transformer les choses. Donc c'est le grand problème, le jardin, c'est un monument vivant, comme dit la charte de Florence, et il faut faire une histoire vivante. qui s'adapte aux monuments vivants. Et donc, on ne peut pas arrêter le temps. On peut le juger, mais il faut accepter de l'accompagner.
Mais alors, on ne va pas demander à Gaspard Koenig s'il aime le jardin de Versailles. Ça, je vous demanderai pas. Mais le jardin, d'une manière générale, ça dit évidemment quelque chose de notre société, de la façon dont on vit. Et vous écrivez une chose qui est quand même assez, enfin qui moi m'inquiète un peu. Vous dites que l'idéal du jardin à la française contient en lui-même les germes de sa propre destruction.
Il suffit de lire Saint-Simon d'ailleurs, qui à l'époque de Louis XIV et donc des tout débuts de Versailles témoigne de son dégoût, je le cite, hein, par rapport au jardin. Considère que c'est, je le cite encore, et on est au XVIIe siècle, donc c'est pas anachronique, que c'est une violence sur la nature. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir dans Saint-Simon l'aristocrate, qui au fond a peut-être peur de la manière dont le jardin de Versailles reflète aussi la centralité du pouvoir et la destruction en fait des corps intermédiaires et de l'aristocratie voulue par Louis XIV.
Donc les haies bien taillées, c'est une fascination pour l'État.
En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète à travers Hegel, et je vois que à l'époque, on a déjà, on peut pas dire que Saint-Simon soit forcément un écolo ou un naturaliste, mais on voit déjà cette réaction instinctive. Il sent bien que des choses qui sont trop taillées, trop ordonnées, qui sont aussi trop torrides, hein, il le dit, c'est désagréable de se promener dans Versailles. Et ça, moi, j'aime bien cette idée de, est-ce que c'est agréable de se promener dans le jardin? La question, c'est pas est-ce qu'il est beau à voir.
C'est une question de sensualité, presque.
C'est est-ce qu'on est bien dedans.
Ouais.
Et le jardin que je préfère, du coup, c'est le jardin grec que je lis dans le Phèdre, où les deux personnages, c'est génial, ils commencent une discussion philosophique, Phèdre et Lysias, et puis ils se baladent le long du petit fleuve d'Athènes, l'Ilissos, et ils se disent, tiens, où est-ce qu'on pourrait se mettre? Et la moitié du dialogue, c'est, là on va être bien, là on est à l'ombre, là il y aura trop de soleil, là on va s'endormir, parce que c'est tellement bien qu'on va même plus parler. Puis en même temps, il y a un peu d'érotisme dans ce dialogue, parce qu'on voit bien que Socrate a envie de plaire à ce jeune penseur. En plus, il parle de l'amour. Bon, et puis à la fin, il trouve un coin qui est formidable, qui est un sanctuaire, qui est la nature relativement sauvage, mais avec juste quelques petits aménagements faits par l'homme. Et moi, je retrouve justement là, dans cette promenade et dans cette jouissance de la nature, je retrouve plutôt les principes, alors évidemment, pas du tout les principes du jardin en français ou à la française, mais du jardin, justement, du co-auteur de Monique Mosser,
le
jardin de Gilles Clément, qui a quand même... Je veux bien que le jardin soit toujours en évolution, évidemment, c'est du vivant, mais il y a quand même des gens qui pensaient le jardin sous une forme architecturale, c'est-à-dire qu'il fallait que ça reste à peu près sous cette forme. Et Gilles Clément, c'est le premier qui fait quand même exploser complètement cette idée-là en disant « mais non, en fait, il doit toujours être en mouvement ». Et c'est exactement ce que dit Platon sur le dialogue. Il dit « la force du dialogue par rapport à l'écrit ». C'est précisément que il s'arrête jamais. Et d'ailleurs, Platon compare l'écrit au jardin d'Adonis, c'est-à-dire aux jardinières, c'est-à-dire au truc en pot. Et il dit alors que la conversation, c'est des graines qu'on sème. Et en ce sens, elle est immortelle parce que ça va toujours continuer. Il y a toujours quelqu'un qui va poursuivre en fait le dialogue. On ne sait pas où ça va mener. Ça va être en évolution perpétuelle. Et le rôle de philosophe, c'est juste peut-être de l'orienter par ici et par là. C'est exactement, enfin je pense, c'est la philosophie de Gilles Clément quand justement, il prend un jardin, il regarde ce qui se passe. Et puis,
il dit, une herbe n'est pas, dans ce livre, Inventer le jardin, il dit, une herbe n'est pas mauvaise, elle est parfois mal placée.
Oui, c'est vrai que l'idée de mauvaise herbe est maintenant... c'est plus très utilisé comme terme. Ouais, ouais. On parle des adventices et il n'y a pas d'herbe mauvaise, ce que dit Georges Sand, hein, par rapport à ses fleurs des champs.
Vous voyez qu'elle n'est pas si mal que ça, Georges Sand.
Ah oui, George
même
Sand,
si
moi,
votre maman vous rappelle Georges Sand.
Justement.
Parce qu'elle a peut-être trop bossé dans son jardin.
Justement,
c'est pour ça que vous en voulez au jardin.
C'est un grand compliment pour moi.
Gilles Clément, écoutez, justement, jardinier, paysagiste, il faut le rappeler, botaniste, entomologiste, biologiste, c'était dans l'émission Des mots de minuit sur France 2 en 2002.
C'est suivre l'énergie en place, donc il y a des espèces qui en fait voyagent, se déplacent physiquement, mais le jardinier suit cette dynamique plutôt que de la contrarier. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, les cheminements eux-mêmes changent de place parce que les espèces ont décidé de pousser là où il y avait des chemins. Et la question se pose à ce moment-là de savoir si on garde ou pas ces plantes qui ont bien voulu s'installer toutes seules à cet endroit. Un jardin est toujours un peu un index planétaire dans la mesure où les plantes du
c'est
monde
fractal,
entier qui sont...
Hein,
c'est un peu fractal. Mais en plus de ça, c'est un renvoi assez direct vers des pays qui sont lointains, dans la mesure où depuis toujours, on a accumulé dans ce jardin-là des choses qui viennent de loin. Mais un autre point, c'est quand on voyage, on se rend compte qu'il existe des plantes qu'on a connues en Europe et qui sont d'origine européenne et qu'on trouve en Asie ou ailleurs, des plantes australiennes en Afrique du Sud, des chiliennes, etc. Enfin, que le brassage est engagé d'une façon très forte. Le paysage se reconfigure, c'est ce que je dis d'ailleurs là. Il est en train de se transformer, mais il n'a jamais cessé de se transformer. Simplement, nous n'acceptons plus cette transformation en estimant que ce qui nous échappe, ce qui échappe à notre maîtrise, est inacceptable, ne doit pas exister.
Alors ça vous plaît quand même, Gaspard Koenig. Vous êtes d'accord avec ça, avec ce jardin planétaire, qui a d'ailleurs aussi quelque chose d'universel, d'est en ouest et du nord au sud, hein,
Et puis beaucoup à voir avec les migrations aussi. Parce que Gilles Clément, il dit bien que voilà, quand une espèce nouvelle arrive, eh ben, on regarde, on voit comment ça se comporte dans son nouveau milieu. Le milieu va changer autour de cette nouvelle espèce, ou bien l'espèce ne va pas s'y plaire, va aller ailleurs, ou va disparaître. Et donc, y a une forme de... c'est pour ça qu'il parle du jardin... Et aussi, il y a une deuxième signification dans le jardin planétaire. Il y a d'abord cette espèce de migration perpétuelle, d'adaptation. Et puis aussi, il y a l'idée qu'il n'y a plus d'espace véritablement sauvage. Et que c'est pas grave. Il faut l'assumer, il faut assumer cette anthropisation du monde, mais en faire quelque chose de positif, donc en faire un jardin et pas une terre rase.
Donc c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, c'est regarder autrement la ronce, tout comme Gilles Clément, et tout comme Proudhon. C'est le laisser faire, c'est le laisser pousser.
Oui, alors pas tout.
Non, pas tout, d'accord, mais...
Non, mais c'est intéressant, on doit se poser ces questions. Par exemple, on laisse pousser l'herbe. Bon, si on laisse pousser l'herbe, mais qu'on fait rien, effectivement, ça va devenir impraticable. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faucher combien de fois? On va faucher une fois, deux fois, trois fois par an. Et donc, à chaque fois, on s'ajuste. Voilà. Et comme c'est du vivant, il n'y a pas de règles implacables qui puissent nous tirer d'affaire. Et d'ailleurs, il y a plein de livres sur le jardin que j'avais lu au début, mais enfin, je veux dire des livres pratiques. Et en fait, mais non, mais c'est-à-dire qu'en fait,
l'almanach du jardinier, ça vous plaît pas, c'est pas votre style.
Ils disent tous, mais c'est comme quand pour élever les enfants, ils disent tous tout et son contraire, et donc on sait plus du tout quoi faire. Et puis à la fin, on les met tous à la poubelle, et puis on expérimente, et il y a que ça d'amusant en plus.
Monique Mosser et Gaspard Koenig sont les invités de l'heure philo sur France Inter. Floride sur France Inter.
To tell you how deep the night is, but life is a mystery, no key to crack the mystery. When I woke up, you were gone. I lay my head back down, the ghost ranch glowing in my inner eye. What do I do about my destiny now? With the bowed-headed beauty, only I receive it. How clearly the lost transmission went burning from your radio to mine. I keep one ear on the line. Stretched out beneath the dome and dreaming, soul dissolves in geometric blue. Goodbye, goodbye to everyone that's leaving. I understand it, but I cannot explain. What do I do about my destiny now? With the bowed-headed beauty, only I receive it. How clearly the lost transmission went burning from your radio to mine. I keep one ear on the line. Now stretched out beneath the dome and dreaming. Now I'm stretched out beneath the dome and dreaming. Now I am stretched out beneath the dome and dreaming. I understand it. but I cannot explain. What do I do about my destiny now? Faced with the bowed-headed beauty, only I receive it. How? Clearly the last transmission went burning from your radio to mine. I keep one ear on the line.
Monique Mosser, est-ce que ce jardin que déteste... Non, je rigole parce que vous détestez pas tous les jardins, Gaspard Koenig. Est-ce que ça peut aussi être un... On y fait plein de choses hein, dans un jardin. Et ça peut être un lieu de méditation. Et vous citez un poème de Victor Hugo accompagnant ses petits-enfants au Jardin des Plantes. Hugo qui écrit « C'est du vaste univers un raccourci complet », donc il parle du jardin. Et puis finit en disant « L'infiniment charmant et l'infiniment grand ».
Oui, et moi, c'est, enfin, ayant tellement travaillé sur les jardins et à la fois, alors j'ai toujours aux étudiants, j'ai une formule toute faite, mais qui pour moi fait vraiment sens. Je dis, quand on étudie les jardins, enfin, globalement, ça va de la binette à Dieu. C'est-à-dire, ça va du geste le plus, enfin, le plus simple de désherber, à une représentation du cosmos. Voilà. Et à tout ce qui va avec. Alors, c'est assez compliqué parce que quand j'ai créé mon master, j'ai 80 personnes différentes qui interviennent dans l'année. Et le directeur de l'école d'architecture de Versailles parlait de ce truc comme de mon usine à gaz. Bon, mais moi, je lui dis toujours, mais on peut pas parler de je sais pas, des arbres, des choses extrêmement précises ou du sol. Hein. Vous parlez de Monsieur Sélos et de tous ces grands savants. Oui. Certains sont intervenus chez moi, les bourguignons, et tout ça. Oui. Et puis, au-delà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que veut dire nature chez les Grecs? Hein, la fugis, c'est quoi? Bon, donc, ce n'est pas les mêmes qui sont capables et susceptibles de parler de tout ça. Et c'est cette espèce de monde. Le jardin, c'est un microcosme. Enfin, un macrocosme, microcosme. Mmh. Et c'est cet intermédiaire qui m'intéresse et que j'essaye de transmettre et de faire comprendre. Et là, alors, je ne suis pas philosophe, mais là, quand même, j'ai retrouvé deux citations de Nietzsche. Nous avons tous en nous des jardins et des plantations cachées. Qui n'est quand même pas mal. Et dans le Gai Savoir, à propos de l'architecture des contemplatifs, il dit « Notre désir serait de nous voir nous-mêmes, traduits dans la pierre ou dans la plante, de nous promener au-dedans de nous-mêmes, lorsque nous irions de-ci, de-là, dans ces galeries et dans ces jardins. » Et là, cette espèce d'identification avec ce monde de création, voilà, l'homme créé, mais il est lui-même quelque chose à l'intérieur de ce qu'il a créé. Et c'est ça qui me paraît intéressant. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui nous habite.
Je suis sûr que ça vous intéresse, ça, Gaspard.
Oui, et puisqu'on parle de métaphysique, et je pense que ce que dit aussi Nietzsche dans ce texte, c'est que le jardin permet de se rapport au cosmos peut-être, mais il permet surtout, pour moi en tout cas, de se passer de Dieu.
Pourquoi pas, oui.
Je pense que, regardez Sartre par exemple, Sartre qui vit dans un monde sans Dieu, son angoisse métaphysique dans la nausée naît de la contemplation de la racine. Il trouve ça terrible, la racine, il trouve que c'est une espèce d'objet inanimé, brut, et ça lui fait peur. Et c'est vrai que la terre fait peur parce que la terre, c'est la terre, c'est littéralement la décomposition des matières organiques. C'est une espèce d'immense recyclage du vivant. C'est un immense tombeau en fait sur lequel nous marchons et qui est constamment mangé par ces milliards de créatures et alimenté par les feuilles mortes, les végétaux et aussi les cadavres animaux. Et donc ça fait peur. Mais en même temps, si Sartre pouvait concevoir cette racine, non pas simplement comme une espèce d'objet fini, mais comme un lien entre l'eau, les nutriments de la terre, et puis le ciel, l'évapotranspiration de l'arbre, donc comme quelque chose qui est inscrit dans le flux du vivant, ben je pense que tout d'un coup, peut-être cette angoisse métaphysique, cette angoisse de la finitude, pourrait se résorber. Et je pense que dans le monde sans Dieu dans lequel nous sommes, le rapport à l'humus nous permet une nouvelle forme d'existentialisme heureux Et de ce point de vue-là, je suis très favorable aux techniques funéraires d'humusation, c'est-à-dire de décomposition du corps à même le sol, qui, je pense, nous ouvre de nouveaux horizons anthropologiques.
Gaspard Koenig, merci. Agrophilosophie, réconcilier nature et liberté, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Monique Mosser, merci. Vous avez coécrit, donc avec Gilles Clément, Inventer le jardin de l'Antiquité à nos jours. C'est un beau livre, comme on dit, aux éditions du Seuil.